La Fouano 36. Une fois certaines par un sont certains. Le 24 septembre 2017. Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, je voudrais revenir sur le sujet de la foi, et cette fois-ci, je voudrais montrer combien il est nécessaire d'entendre un son certain pour entrer dans une foi certaine. Nous intitulerons ce sermon « La foi authentique par un son certain ». Par conséquent, restons debout en l'honneur de la parole de Dieu et ouvrons nos Bibles à 1 Corinthiens 14.8 que nous prendrons pour notre texte de ce matin et nous examinerons ce que l'apôtre Paul a dit sur ce sujet de la foi authentique en entendant un son certain. Et pour bien comprendre cela, nous devons également comprendre qu'une foi incertaine est établie par un son incertain. 1 Corinthiens 14.8 Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Le retour et le jubilé 22 novembre 62-75 Bonté divine. Ce n'est pas cela. La trompette donne un son confus, viens te joindre à ce credo-ci, viens te joindre à ce credo-là. Pourtant la Bible dit autre chose. Oui, monsieur, si la trompette Néhémie donne pas un son clair, vous Néhémie savez pas à quoi vous préparer. Mais lorsque vous voyez la trompette de Dieu proclamer la parole de Dieu et Dieu confirmer cela par des signes et des prodiges comme il avait dit que cela se ferait, c'est juste. Si la trompette donne un son confus, le capitaine en chef Néhémie confirmera pas l'appel. Maintenant, frère, c'était un ventre plein. Le capitaine en chef Néhémie confirmera pas l'appel. Car il a dit dans Marc 16, le monde entier. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui y auront cru. C'est le capitaine en chef. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. C'est cela l'appel. Le capitaine a dit, je les confirmerai par ceci. Il a aussi dit dans Jean 14.12. Le capitaine en chef a dit, celui qui croit en moi, non pas celui qui dit qu'il croit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. C'est sa leçon claire. Il a dit à ses juifs dire, eh bien, toi, un homme, tu te fais passer pour Dieu. Il dit, si je Néhémie fais pas les œuvres de mon père, alors Néhémie me croyait pas. Amen. Appliquons cela à une église. Gloire. Bien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui y auront cru. Parcourant toute la Louisiane dans une bagnole, une vieille Ford modèle T aux pneus recouverts de tringles, vos pères sont allés prêchant cela contre ces dogmes que vous y avez ajoutés. Sortez-en. Retournez. Revenez. Repentez-vous. Retournez là d'où vous venez. C'est l'année du jubilé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui y auront cru. Oui, monsieur. Maintenant, l'apôtre Paul Néhémie s'arrête pas là, mais tout le 14e chapitre de 1 Corinthiens est dédié à cette pensée que si vous entendez un son confus, cela effectuera ce que vous faites, mais si vous entendez un son sûr, cela vous préparera. Nous parlons donc ce matin sur cette pensée qu'un son certain produira une foi authentique, mais qu'un son incertain produira une foi incertaine. Commençons donc par lire le verset 1 de 1 Corinthiens 14.1 Rechercher la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Le mot grec ici, Sester prophteo et cela signifie un discours ou une prédication d'inspiration divine. Deux en effet, celui qui parle dans une langue inconnue, la traduction de Vuest d'ici, une langue qui n'estère pas compris sauf au moyen d'un interprète, Néhémie parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne Néhémie le comprend, et Sester en esprit qu'il dit des mystères. Je pense que nous aurions pu avoir tout un sermon sur ce seul point, car il Néhémie parle pas d'une langue angélique, mais il parle de quelqu'un qui Néhémie parle pas votre langue. Alors comment vous est-il possible de comprendre sa langue ou ce qu'il vous dit? Maintenant, Frère Vel m'a dit qu'il avait ce problème, parce qu'il m'a dit, Brian, tu peux enseigner ce message mieux que moi. Et j'ai dit, oui, c'est vrai Frère Vel, et tu sais que tous les menteurs iront au lac de feu. Et puis il m'a souri et a dit, ce que je veux dire. C'est que tu le rends si simple, que les gens peuvent comprendre ce que tu leur dis. J'aimerais pouvoir le faire. Et cependant, c'était l'attrait que beaucoup avaient pour son ministère parce qu'il l'enseignait si profondément. Et pourtant c'est aussi ce qui le dérangeait tellement, parce que même si les gens étaient attirés par son ministère et aimaient l'entendre, mais il n'arrivait pas à faire attention à ce qu'il disait. Maintenant, vous qui étiez sous son ministère, savez que c'est la vérité. Mais Dieu l'a fait ainsi. Et Frère Branham a dit que Dieu utiliserait cette profondeur pour transmettre ce message aux universitaires et aux intellectuels. Et c'était si merveilleusement exprimé dans le livre des sept âges de l'Église et dans les deux autres livres qu'il a écrits. En fait, il m'a dit que sa véritable onction n'était pas dans l'enseignement mais dans l'écriture. Je pense qu'il avait une onction pour les deux. 3. Celui qui prophétise parle et prêche divinement sous l'inspiration, au contraire, parle aux hommes. 1. Les édifie. 2. Les exhorte. 3. Les console. 4. Celui qui parle dans une langue inconnue, une langue qui n'est pas comprise sauf par le canal d'un interprète, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, celui qui parle et qui prêche par inspiration divine, édifie, améliore la connaissance de l'Église. Puis, l'apôtre Paul dit, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, parliez et prêchiez par inspiration divine. Celui qui prophétise, parle et prêche par inspiration divine, est plus grand que celui qui parle en langue. Une langue qui n'est comprise qu'au moyen d'un interprète, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Si c'est maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parler en langue? Une langue qui n'est comprise qu'au moyen d'un interprète, et si je n'ai mis vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, discours et prédication d'inspiration divine, ou par doctrine, celles-ci les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, n'aimer rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? En d'autres termes, personne n'a jamais écrit une symphonie composée d'une seule note. Ce n'aimer serait pas de la musique, ce serait monotone. 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Oh! Dans les sept âges de l'Église 54-051 de P, 13 frères Branham nous dit ce que représente une trompette. Une trompette représente une guerre, un sceau, un mystère qui se dévoile. Dans l'armée, une trompette sonne une déclaration de guerre, et annonce les tactiques de bataille, soit la charge soit la retraite, ou de nombreux autres commandements militaires. Mais concernant la parole de Dieu, le son d'une trompette, dit-il, doit être en relation avec un mystère qui se dévoile. Et ainsi Paul dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat, c'est-à-dire, dans la guerre, à la bataille, ou dans l'Église, d'entendre un son incertain, qui peut se préparer au mystère qui se dévoile? 9. De même vous, si par la langue, votre langue, vous n'aimez donnez pas une parole distincte, alors comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Maintenant, j'ai entendu des prédicateurs, dans ce message, qui, dans une tentative de se faire un nom, ont essayé d'entrer dans des mystérieux à un point tel que je n'avais honnêtement pas idée de ce qu'ils disaient. Et c'est de cela que parle l'apôtre Paul ici. Si par votre propre langue vous n'aimez, donnez pas des mots qui soient faciles à comprendre. Alors comment saura-t-on ou comprendra-t-on ce que vous dites? Car si on n'aimez comprend pas ce que vous dites, alors vous parlez simplement en l'air. Il faut donc que le ministre prenne ce message et n'essaie pas d'impressionner les autres par leur connaissance, mais le rende si simple que même les enfants peuvent comprendre ce qu'ils disent. Mon père était un avocat très accompli et il m'a dit, quand j'étais au lycée, de toujours écrire et de toujours parler à l'aide de phrases courtes et articulées. D'utiliser un langage simple que tout le monde peut comprendre. J'ai lu, la semaine dernière, où ils disent pourquoi Donald Trump a si bien réussi à faire passer son message. C'est-à-dire parce qu'il parle au plus petit dénominateur commun afin que tous puissent comprendre son message. Mais dans notre monde occidental, les éducateurs universitaires nous ont appris à parler au-dessus des élèves et c'est-à-dire une technique qu'ils utilisent pour amener les élèves à penser qu'ils sont plus intelligents qu'eux. J'ai lu une fois sur un chapeau, il était écrit, si vous n'aimiez pouvez les éblouir avec des diamants, déconcertez-les en racontant des sornettes. Et je n'ai mis c'est quoi? Et c'est-à-dire ce que font beaucoup de personnes à des postes de direction. Verset 10 quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Il n'en est-à-dire aucune qui n'ait mis soit une langue intelligible. Cela signifie sans signification. 11 si donc je n'ai mis, connais pas le sens de la langue. Je serai un barbare pour celui qui parle. Une personne qui émet des sons confus et inintelligibles, et celui qui parle sera un barbare, une personne qui émet des sons confus et inintelligibles, pour moi. 12 de même vous. Puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, pour ce qui édifie l'Église et non soi-même, que vous cherchiez à en posséder abondamment. 13 c'est-à-dire pourquoi? Que celui qui parle en langue inconnue, prie pour avoir le don d'interpréter. Prie pour qu'il puisse également la décomposer afin que vous puissiez comprendre ce qu'il dit. 14 car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Que produisez-vous à parler une langue que vous-même n'y comprenez pas? 15 que faire donc? Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 16 autrement. Si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui estère dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il n'émissait pas ce que tu dis? Fr. Vel m'avait dit qu'il avait connu un prédicateur une fois, qui pouvait parler couramment cette langue étrangère. Et il estère allé dans une église au Canada où il croyait aux dons opérant librement dans la congrégation. Et il a été totalement choqué quand il a entendu trois personnes maudire Dieu et de louer Dieu dans des langues qu'aucune autre personne dans l'église n'aimait comprenait. Et pourtant, les gens ont entendu ces langues inconnues et ont dit amen à ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, en fait, il disait amen aux malédictions adressées à Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, comment celui qui estère dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il n'émissait pas ce que tu dis? 17 Turan. Il estère vrai, d'excellente action de grâce, mais l'autre n'estère pas édifié. Si vous parlez plus d'une langue, dit-il, vous devez vous assurer, lorsque vous parlez, de faire en sorte que les autres sachent et comprennent ce que vous avez dit dans l'autre langue. Sinon vous seul bénéficierez de ce que vous avez dit. 18 Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 19 Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. En d'autres termes, Paul était mort à Paul, et il vivait maintenant pour les autres. Et vraiment ça montre le motif et l'objectif. Fr. Branham a dit, la vie éternelle, cessèrent vivre pour les autres. 20 frères, Néhémie, soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des adultes à l'égard de la compréhension. 21 Il Esther écrit dans la loi, si Esther par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. 22 Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, la prophétie, discours et prédication d'inspiration divine, au contraire, Esther un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. 23 Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue inconnue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, Néhémie diront-ils pas que vous êtes fous? 24 Mais si tous prophétisent, parlent et prêchent par inspiration divine, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il Esther convaincu par tous, il Esther jugé par tous. En d'autres termes, si quelqu'un vient, par exemple, comme visiteur, et entend le sermon qui est Esther clair et bien compréhensible, et il sort ensuite et entend les gens exprimer les mêmes choses qui ont été enseignées uniquement en utilisant leurs propres mots pour les réexprimer, il Esther convaincu que l'Église a quelque chose de spécial. Mais s'il saurait que les gens parlent de voitures ou de nourriture ou d'autres choses du monde, il saura qu'il y a quelque chose qui Néhémie va pas. Les gens Néhémie sont pas en phase avec le Saint-Esprit et leur cœur n'était pas du tout touché. 25 Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adora Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous y voilà, Esther, c'est l'Église du Dieu Tout-Puissant dévoilée. 26 Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Que veut dire Paul ici? Rappelez-vous qu'il parle d'un son confus. Si tout le monde vient à l'Église et à son propre petit royaume qu'ils essayent de construire, alors le royaume de Dieu Néhémie peut pas être construit. Il n'édifie pas ou n'érige pas le royaume de Dieu mais le leur. Mais si vous avez un rêve, une révélation ou une doctrine qui se rattache à ce que Dieu vient de dire par celui qui a prophétisé, parlé ou prêché sous l'inspiration divine, alors vous érigez tous sur le même fondement que Paul. Mais rappelez-vous qu'il nous a appris que nous devons faire attention à la façon dont nous construisons, car il a dit dans 1 Corinthiens 3.11, car personne Néhémie peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, 13 car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Maintenant, verset 27 en Esther il, qui parle en langue inconnue, la traduction vue est d'ici, une langue qui n'Esther comprise, que par l'intermédiaire d'un interprète, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, 28 s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Mais silencieusement pour qu'il Néhémie soit pas entendu par la congrégation. 29 Pour ce qui est Esther des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. 30 Et si un autre qui est Esther assis a une révélation, que le premier se taise. 31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. En d'autres termes, vous Néhémie pouvez pas justifier le fait de vous exprimer directement, franchement et sans crainte à l'église en disant que Dieu m'a fait ainsi. Paul dit que c'est absurde. Chacun a le contrôle sur le don dont il est en possession. Et puis il ajoute, 33 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, 34 que les femmes se taisent dans les assemblées, car ils Néhémie leur restèrent pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 35 Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? 37 Si quelqu'un croit être prophète, une personne qui parle ou qui prêche par inspiration divine, ou même si vous pensez être inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. 38 Et si quelqu'un l'ignore, qu'il demeure ignorant. 39 Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. 2 Parlez de prêcher par inspiration divine et n'empêchez pas de parler en langue. 40 Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous voyons donc que tout ce traité de Paul concerne la confusion qui vient en entendant un son confus. Et un son confus produit une foi incertaine. Par conséquent, où il veut en venir, c'est de nous aider à comprendre que si vous voulez une foi certaine, vous n'aimez le devez uniquement qu'un son certain. Maintenant, cela nous amène à Romains 10.8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Remarquez qu'il dit, n'importe quelle parole Néhémie fera pas l'affaire, mais la parole que nous prêchons. Et dans Galates, il nous a aussi averti que si nous prêchons un autre évangile que celui qu'il a prêché, nous sommes maudits d'une malédiction. Maintenant, nous découvrons dans l'église de Galatie qu'ils ont commencé à s'écarter de ce que Paul leur avait enseigné. Remarquez qu'il dit dans Galates 1.6 « Je m'étonne, je suis choqué et dégoûté, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Remarquez ici que Paul nous dit que ces gens s'étaient détournés de l'évangile, comme il l'avait enseigné, pour un autre évangile. Maintenant, cette locution « un autre » a été traduite du mot grec « tro », qui signifie d'une nature différente. Maintenant, connaître la nature de quelque chose est très important, car chaque semence se reproduira selon sa nature. Et ce que Paul dit, c'est que bien que vous utilisiez mes mots pour dire ce que vous dites, mais il se dessine une nature très différente, et cette nature affecte la façon dont vous croyez. Car, remarquez au verset suivant, il dit, c'est non pas qu'il y ait un autre évangile, et le mot grec duquel cette locution un autre a été traduit, c'est le grec moalo, et non trop. Le mot halo signifie un évangile tout à fait différent. Donc, l'apôtre Paul dit que vous vous êtes détourné vers un évangile d'une nature différente, mais pas totalement différent. Puis il continue en disant, « Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. » Alors remarquez que le changement est une perversion de ce qu'il a dit. En d'autres termes, peut-être qu'ils utilisaient la même phraséologie ou les mêmes mots, mais cependant, par la compréhension, le résultat de leur présentation est une totale perversion de l'original. Or, il a aussi dit la même chose dans 2 Corinthiens 11.1-4 où il parle des gens recevant un autre esprit. ce mot esther aussi trop, parlant d'un esprit qui a une nature différente. 2 Corinthiens 11:4. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre, allô, Jésus, tout à fait différent que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre, trop, esprit, d'une nature différente que celui que vous avez reçu, ou un autre, trop, évangile, d'une nature différente que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Maintenant, dans ce cas, ils prêchent un allô Jésus et reçoivent ainsi un esprit trop, parce que leur évangile esther est devenu un évangile trop, qui esther d'une nature différente de celle ce que Paul a prêché. En clair, ils prêchent un Jésus différent de celui de Paul, non seulement d'une nature différente, mais totalement différent, et comme ils prêchent ce Jésus différent, l'esprit qu'ils reçoivent esther d'une nature différente. Et donc l'évangile, bien qu'ils utilisent les mêmes termes, devient d'une nature complètement différente. Nous voyons donc que Paul avertissait les gens que ce n'était pas un message tout à fait différent vers lequel ils s'étaient détournés, mais c'était la même formulation ou la même terminologie du message, mais la façon dont il l'agençait, lui attribuait une nature différente, parce que c'était une perversion du message qu'il leur avait premièrement présenté. Encore une fois, nous voyons qu'un son confus produira une foi incertaine. Maintenant, l'apôtre Pierre nous a également mis en garde à ce sujet dans 2 Pierre 2.1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura au futur de même parmi vous de faux docteurs, qui, en privé, secrètement, ce qui signifie pas ouvertement mais subtilement, ils introduiront des sectes pernicieuses. La question esther de savoir où? La traduction VUEST nous dit que ces faux enseignants sont d'une nature telle qu'ils introduiront parallèlement à la vérité des hérésies destructrices, reniant même le Seigneur qui les a achetés, disant non ou ignorant ou refusant celui qui les a achetés et, ce faisant, ils attireront une destruction rapide. De plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Remarquez encore que ce son confus produit une foi incertaine, qui mène à la mort et à la destruction. Remarquez que ce que font ces hommes, c'est esther de discréditer la voie de la vérité. En d'autres termes, ils deviennent une tache sur la vraie révélation de Jésus-Christ et sur ceux qui prennent position pour la vérité et sont identifiés avec le messager de la vérité. Mais comme ils sont venus prêcher leur hérésie aux côtés de la vérité et ils entraînent le reste d'entre nous qui faisons tout notre possible pour rester dans la bonne position. Et par association, tout le message esther méprisé et la réputation du serviteur de Dieu, William Branham, esther remise en question. Or, remarquez le verset 3 par cupidité. Nous voyons que leurs motifs et leurs objectifs sont faux pour commencer. Parce que s'esther l'avidité, au moyen de paroles trompeuses, par leur désir avide d'avoir plus, au moyen de paroles trompeuses, et le mot trompeur signifie donner une fausse apparence, ou représenter faussement ou des paroles qui sont inventées avec pour motif de séduire, ou imiter dans le but de séduire. Vous pouvez donc voir que leur motif esther la séduction afin qu'ils trafiquent de vous. Nous voyons donc que leur profond motif intérieur, c'est esther l'argent, l'argent, l'argent. Alors ces hommes Néhémie sont rien d'autre que des mercenaires et des colporteurs du message pour gagner leur vie aux dépens des gens par le message. Ces Néhémie sont que des mercenaires, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine Néhémie sommeille point. Maintenant, au deuxième âge de l'Église, Irénée a dit, leur façon d'agir, s'esther comme si quelqu'un, lorsqu'une belle image d'un roi a été formée par un artiste habile à l'aide de pierres précieuses, devait ensuite démonter l'apparence de cet homme, et devait réorganiser les pierres précieuses, et les assembler de manière à en faire un chien ou un renard. Et cela même Malachie exécutait. et devait ensuite maintenir et déclarer que telle était la belle image du roi que l'artiste habile avait construit. Montrant les bijoux qui avaient été admirablement assemblés par le premier artiste pour former l'image du roi, mais ont été, par un mauvais effet, transférés par ce dernier à la forme d'un chien, et en présentant ainsi les bijoux, devait tromper les ignorants qui n'avaient aucune idée à quoi ressemblait le roi, et les persuader que cette misérable apparence du renard était, en fait, la belle image du roi. Maintenant, remarquez qu'aujourd'hui nous avons le chef-d'œuvre qui Esther le roi de gloire lui-même présenté aux gens par les paroles d'un prophète confirmé, et il a conçu ses paroles avec beaucoup de soin de manière à nous présenter ce qu'il a vu, quand il a dit, mon ministère Esther de le déclarer qu'il Esther ici. Et il Esther la divinité suprême qui Esther descendue au milieu de nous. Et ce faisant, il nous a révélé le Dieu puissant dévoilé. Mais puisque ce prophète n'Esther plus sur la scène pour protéger l'image de ce chef-d'œuvre, d'autres sont venus et ont pris ces citations, ces précieuses perles, qui nous ont présenté la belle image du puissant roi de gloire, ces perles ou pépites d'or dont Irénée a parlé, et si faux enseignants ont démonté le message en extraits sonores et citations rapides, et les ont réassemblés ou réorganisés à l'image d'un chien ou d'un renard et ils ont fait campagne dans le monde en présentant leurs propres opinions comme étant l'image du roi. Et alors d'autres voient cette image et la considèrent comme un message légaliste, ou un message d'un culte de la personnalité, ou d'une image du pentecôtisme plus quelque chose. En d'autres termes, l'image de la présence personnelle du roi de gloire n'est-elle pas mise de l'avant, si ce n'est l'un des nombreux camps théologiques qui foisonnent de tapages et d'histoires continuelles. Irénée a poursuivi, de la même manière, ces personnes rapiaisent ensemble les fables de vieilles femmes, puis s'efforcent, en s'éloignant violemment de leurs propres connexions, mots, expressions et paraboles chaque fois qu'ils en trouvent, afin d'adapter les oracles de Dieu à leurs fictions sans fondement. Nous avons déjà indiqué jusqu'où il procède de cette manière en ce qui concerne la plénitude. Ce qu'Irénée nous dit, c'est Esther qu'un son confus produira une foi incertaine. Et si l'alpha Esther est devenu l'oméga, comme frère Branham nous en a averti, alors le même chose Esther arrivé en 7 heures. Le message Esther est devenu perverti et n'a plus la même nature pure que celle enseignée par William Branham. Mais il y a une nature perverse qui a pris d'assaut le message où la plupart des gens sont unitaires dans leurs pensées. Or, vous Néhémie pouvez pas attribuer cela à William Branham parce qu'il a catégoriquement nié être unitaire comme les gens l'enseignent aujourd'hui. Il a dit que Jésus n'était pas son propre père, et il a dit qu'il était un être double parce que Dieu demeurait dans le Fils de Dieu. Avant que frère Branham Néhémie quitte la scène, il a dit à un frère, je sais qu'il Esther déjà prêché 17 différentes versions du message. Et c'était il y a près de 40 ans. Donc, pour revenir à ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 1.8, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ensuite, pour s'assurer qu'il était bien compris, il dit encore au verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Remarquez ici que l'apôtre Paul montre assez clairement que tout autre évangile est un évangile perverti, s'il n'y présente pas la même nature que ce qu'il a déjà prêché. Et il nous fait savoir qu'un son confus produira une foi incertaine. Et puis il nous dit pourquoi au verset 10, et maintenant, Esther se la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, Esther ce que je cherche à plaire aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je n'ai serais pas serviteur de Christ. Maintenant, c'est Esther une déclaration très importante qu'il fait ici, car elle va à l'encontre de tous ceux qui utiliseraient la chair pour gagner de l'argent et pour essayer d'attirer les hommes à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Il dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je n'y serais pas serviteur de Christ. » Alors vous, les ministres, qui écoutez ce sermon, vous feriez mieux de faire très attention à ce que votre motif soit de pointer vers la même image du roi de gloire que William Branham et Paul nous ont pointé, et non pas d'ériger votre propre royaume ici sur terre. Maintenant, il n'y dit pas, « Je n'y devrais pas être serviteur de Christ si je plaisais aux hommes », comme si c'était à lui de décider s'il devrait l'être ou pas. Non, c'était une mauvaise traduction. Ce que Paul dit plutôt, c'est-à-dire que si je plaisais aux hommes plutôt qu'à Dieu, alors je n'y serais pas serviteur de Christ, parce que vous n'y pouvez pas servir Dieu et l'homme. Parce que ce n'est-ce pas notre message pour commencer. C'est-à-dire soit le message de Dieu que vous prêchez et croyez, soit celui de l'homme. Faites votre choix. Parce qu'au verset 11, il dit, je vous déclare, frères, ce qui signifie que je vous ai fait prendre pleinement conscience, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi ou de moi n'est-ce pas de l'homme. 12 car je n'ai mis l'ai ni reçu d'un homme, ni appris d'un homme, par un homme, mais par une révélation, ce mot est-ce Apocalypsis qui est-ce l'apparition de Jésus-Christ. Alors Paul nous dit que l'évangile qu'il prêchait Néhémie lui a pas été révélé en lisant sa Bible. Et pas par un homme quelque part, mais par Jésus-Christ lui apparaissant. Et c'est-à-dire donc une compréhension confirmée que Paul apportait aux gens. Et la même chose est-ce arrivée en 7 heures. Fr. Branham Néhémie nous a pas apporté quelque chose qui lui avait été enseigné par d'autres hommes, mais il a apporté ce qui lui avait été donné par l'apparition de Christ en 7 heures. La même colonne de feu qui est apparue à Paul dans le désert est la même colonne de feu qui est apparue à William Branham au-dessus des eaux de la rivière Ohio. Maintenant, cela nous amène à Romains 10. Rappelez-vous, le fondamentaliste croit que tout ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de confesser oralement que Jésus est le Fils de Dieu et l'est en Christ, sauvé et rempli du Saint-Esprit. Mais remarquez qu'il lit en Romains 10, les versets 9 et 10 mais Néhémie remonteront pas au verset 8, qui parle de la parole que Paul a prêchée qui contient une malédiction pour celui qui en déviera d'un iota et qui produira une autre nature dans la façon dont ils le présenteront. Il y a une malédiction pour cela. Et donc nous reprenons le verset 9 maintenant avec cette compréhension. Alors, relisons-le. Romains 10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c'est-à-dire en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est-à-dire en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très bien. Maintenant, si nous voulons vraiment comprendre ce que Paul dit ici, nous devons continuer de lire. 11 Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui n'est sera point confus. 12 Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tout un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez que c'est là que le fondamentaliste arrête de lire. Parce qu'il croit que d'invoquer le Seigneur est la confession qui est faite. Mais Paul nous précise que n'importe quelle invocation Néhémie fera pas l'affaire. Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul a consacré tout un chapitre sur cette pensée que vous écoutez soit un son certain soit un son confus, et toute votre foi dépend du son que vous écoutez. Si vous entendez et reconnaissez un son certain, votre foi serait certaine. Mais si vous écoutez un son confus, votre foi deviendra aussi incertaine que le son que vous écoutez. Car au verset suivant il dit, 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Maintenant, C'est-ce une bonne question? Car il nous dit qu'il pourrait invoquer et pourtant n'y pas vraiment croire. Et comment croiront-ils en celui, le même Jésus que peut l'enseigner, dont ils n'ont pas entendu parler? Maintenant, et qu'en est-ce-t-ils s'ils ont entendu cet autre évangile dont Paul parlait dans le livre des Galates? Vous savez, cet évangile trop, cet évangile d'une nature différente? Maintenant s'ils utilisent la même terminologie mais que le résultat est-ce un évangile perverti? Un évangile d'une nature différente. Alors cela doit être un évangile incertain, parce que celui qui le proclame est lui-même d'une nature incertaine. S'il croyait en cet autre évangile de cette nature différente, alors quelle nature supposez-vous qu'ils recevront? La bonne nature qui est la nature de Dieu? Jérémie le pense. Et donc il pose la question suivante. Et comment en entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche? Or, c'est une très bonne question. Comment en entendront-ils parler? S'il n'y a pas de prédicateur? Pour proclamer la parole avec la bonne nature. Mais Paul Néhémie s'arrête pas ici. Car il pose encore une autre question. 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs? S'ils Néhémie sont pas envoyés? Selon qu'il Esther écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous voyons donc Paul poser la question, et comment prêcheront-ils? S'ils Néhémie sont pas envoyés? Et Esther en fait la question la plus importante de toutes. Car qu'en est-il s'il n'était pas envoyé et qu'il prêchait quand même? Alors, quel message prêche-t-il? Si ce n'est pas Dieu qui les a envoyés avec un message, alors qui les a envoyés quel message prêche-t-il? Car, ça doit être le message de celui qui les envoie. Que ceux qui sont envoyés prêcheront. Et s'ils n'ont pas été envoyés par Dieu et qu'ils sont allés de leur propre chef, alors, ils prêcheront leur propre message. Comme frère Branham a prêché ce message courir sans un message. Ainsi, vous voyez à quel point il est important que Dieu envoie quelqu'un. Parce que s'il n'envoie pas un homme, alors l'homme, que les gens écoutent, prêche un message qui n'estère pas le message de Dieu, mais un message qui estère sa propre compréhension. Et s'il en estère ainsi, alors ce message estère d'une autre nature. Et si tel est le cas, alors les gens qui le croiront, croient un évangile perverti. Et si tel est le cas, alors ils vont invoquer une fausse image, et donc croire en une fausse espérance. Et donc quand ils invoqueront Dieu de les sauver, il ne les entendra pas. 16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 18 Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors, qu'est-ce que se sont produits? Si la voix est certaine, elle produira une foi certaine, mais si c'est une voix incertaine, elle produira une foi incertaine. Et qu'est-ce qu'une foi incertaine? C'est une foi qui n'est pas certaine, qui est plein de doutes et d'incertitudes. Ce sera une foi qui n'est pas sûre. Mais la question demeure, ont-ils réellement entendu ce qui se disait? Ou simplement les sons qui ont été émis? Et donc nous voyons dans ce verset des Écritures, que nous devons d'abord examiner ce mot confession, dont il est question ici. Car dans ce passage, on nous dit que quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Et en cela, la promesse est faite que nous recevrons un avantage certain. Et dans ce cas, il se trouve que Dieu habitera en lui, et lui en Dieu. Nous devons donc examiner ce que signifie de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Car en sachant ce qu'est cette confession, nous comprendrons aussi pourquoi Dieu viendra en ceux qui font cette confession. Et nous éviterons également le piège dans lequel tant de fondamentalistes sont tombés au point de croire que la confession n'est que quelques mots magiques qui sont dites par le croyant. Maintenant, le verbe confesser a été traduit du mot grec homologeo ou homologo, et presque tous les chrétiens savent que le mot logo parle de la parole de Dieu. Nous savons qu'au commencement était le logo, et que le logo était avec Dieu, et que le logo était Dieu. Nous voyons donc que ce mot de confession est composé de deux mots grecs, dont l'un est le mot logo, qui parle de la parole. Maintenant, la première partie de ce mot composé, homologeo est le mot grec, homo, et cela némi signifie pas homosexuel. Cela signifie simplement le même. Nous l'utilisons en anglais comme préfixe avec beaucoup de mots. Nous disons homocentrique, ce qui signifie avoir le même centre, ou homogamou qui est utilisé en botanique et signifie avoir un type de fleur sur la même plante, ou homogène, ce qui signifie avoir une nature similaire et se compose de deux mots, homo signifiant le même et gene qui parle des gènes. Il parle donc d'avoir les mêmes gènes. Vous voyez donc le mot homologeo ou logo signifie avoir la même parole. Et c'est la seule façon d'avoir un sens certain, c'est d'avoir la même parole qui a été prononcée par confirmation. Donc, si nous voulons lire correctement ce verset des Écritures, nous devons le lire comme suit, quiconque aura les mêmes paroles et dira les mêmes paroles que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu habitera en lui et lui en Dieu. Maintenant, il dit, quiconque dira les mêmes paroles. Et nous devons savoir qui a dit en premier ces mêmes paroles. Alors, nous aurons une idée quant à l'auteur de ces paroles. Et donc la vie de qui s'exprime à travers ces paroles. Car Jésus nous a dit l'homme est tel que les pensées de son cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors ce que nous sommes vraiment, essentiellement et intrinsèquement, c'est ce que nous pensons dans nos pensées ou dans nos cœurs. Et ce que nous faisons doit d'abord provenir de ce que nous pensons. Puis quand nous faisons ce que nous pensons, cela amène nos pensées dans une forme d'expression. Ainsi, quand nous lisons la déclaration, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, nous disons donc, quiconque pensera et dira donc la même parole. Et quelle est cette parole que nous devons penser et donc dire? Que Jésus est le Fils de Dieu. William Branham nous a enseigné que la confession signifie dire la même chose. Et ce pourquoi il pouvait nous le dire, ce n'est pas parce qu'il était prophète, ni parce qu'il a arbitrairement décidé de le définir ainsi et que nous devons le croire parce qu'il était confirmé. Mais ce pourquoi il pouvait le dire, c'est parce que c'est ce que signifie vraiment le mot grec homologeo. Il signifie la même en mot, parole logéo. Or, dans le sermon Christlin 21 février 55, William Branham dit, 49, vous n'utilisez pas vos propres pensées, vous utilisez ces pensées. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Voyez, pensez selon sa manière de penser, dites ce qu'il dit. La confession signifie dire la même chose. Dire. Confesser. C'est-à-dire confesser la même chose. Dire la même chose. Alors n'aimez confessez pas votre propre conception mentale. Naissez de nouveau et confessez sa parole. Confessez ce qu'il a dit. C'est-à-dire ça la confession. Dites. C'est-à-dire par ses meurtrissures que je suis guéri. Par ses meurtrissures, j'ai le droit par ses blessures, maintenant même, j'ai droit au salut. J'ai droit au Saint-Esprit. Il me l'a promis. Il a dit, c'est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont, au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je le crois. C'est pour n'importe quelle génération. Voici, je suis avec vous pour toujours, même jusqu'à la fin du monde. Il est mort afin qu'il puisse ressusciter et être avec son Église tout du long jusqu'à la fin du monde, pour confirmer la parole par des signes qui accompagnent. Combien de temps cela devait-il continuer? Allez. Cela a-t-il pris fin avec les apôtres? Marc 16 dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On n'espère pas encore là. On espère qu'au tiers presque. Dieu compte sur nous. Et à nouveau, dans le sermon N'ayez pas peur, Sester Moivien 29 juin 62 William Branham nous dit comment dire la même parole. Il dit, 9 je crois simplement la parole et je m'en tiens juste à la parole. Et tout celui qui est pondéré saura que cette parole est vraie. Elle n'est mis peu qu'être vraie. Voyez-vous? Et je n'y apporte aucune quelconque interprétation. J'essaie de la lire simplement telle qu'elle est écrite. Puis, je dis la même chose. Sester s'a confessé. Confesser signifie la même chose. Par exemple, il est le souverain sacrificateur de notre. Eh bien, la version du roi Jacques dit profession. Mais professer et confesser c'est la même chose. Voyez-vous? Ainsi donc, confesser signifie dire la même chose que lui a dite, par ses meurtrissures je suis guéri. Je confesse. Voyez-vous? Je confesse la même chose qu'il a dite. Voyez-vous? Je fais une confession. C'est ce qui se fait au tribunal. Vous devez dire la même chose. Maintenant, je suis à mon grand souverain sacrificateur, car il est assis à la droite de la majesté divine pour intercéder sur base de ma confession. Ainsi, nous examinons une promesse de Dieu qui nous est promise, que si nous avons la même confession que Dieu nous a donnée, alors il promet de venir en nous et de demeurer en nous. Puis, si nous avons le même esprit qui a ressuscité Jésus, cet esprit fera pour nous la même chose qu'il a fait pour lui. Leçon Confus, Somme 14 juillet 62 125. Il n'y a pas de son confus. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Ici aussi, il y a beaucoup de maladies ici. Je vous ai laissé de côté. Je vous ai laissé de côté parce que vous êtes des prédicateurs et des chanteurs. Vous n'êtes pas. Néhémie, pensez pas que j'ignore ce que vous faites. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Néhémie, doutez pas. Chaque croyant. Néhémie, priez pas pour vous-même. Priez pour l'homme à qui vous avez imposé les mains. Il prie pour vous. Priez tel que vous priez. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il n'y a pas d'incertitude là-dessus. Ces terrains sont clairs. Leçon Confus, Somme 14 juillet 62 90. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Écoutez ce qu'il a encore dit. Si je n'ai mis fait pas les œuvres de mon Père, si mes œuvres n'émettent pas un son certain de l'Évangile, alors Néhémie les croyait pas. Ouf. Il était. Il n'y avait pas d'incertitude là-dessus. Si je n'ai mis fait pas ce que Dieu a dit que je ferais, alors Néhémie me croyait pas. Il n'y avait rien d'incertain là-dessus. Vous prétendez être un groupe scripturaire? A-t-il dit. Si je n'ai mis fait pas les œuvres que Dieu avait dit que pour que je ferais, alors Néhémie me croyait pas. Si les Écritures Néhémie se manifestent pas par moi, eh bien, Néhémie me croyait donc pas. Oh, il n'y a rien d'incertain là-dessus. Absolument pas. Si je n'ai mis fait pas les œuvres, alors Néhémie me croyait pas. Mais si je fais les œuvres, alors croyez-moi. C'est certain, il n'y a pas de son confus là-dessus. Et aussi, il a dit ceci. Écoutez donc, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Il n'y a rien d'incertain là-dessus. N'est-ce pas? Je laisse de côté beaucoup de passages d'écriture. Parce qu'il se fait tard. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Leçon Confucium 14 juillet 6281 David. Lorsqu'il se tenait là à côté de Goliath, le regardant, il a vu ce bataillon de soldats de plomb, qui était censé former l'armée de Dieu, se tenir là, des lâches, reculant. David a dit, le Dieu qui a livré le lion entre mes mains, et j'avais aussi tué l'ours, ce même Dieu livrera cet incirconcis de Philistin entre mes mains. Eh bien, non pas, j'espère qu'il le fera. Probablement qu'il le fera. Il a dit, il le fera. Il n'y avait rien d'incertain à cela. Il y avait un son certain. Et ce son certain, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien d'incertain là-dessus. David a dit, il le fera. Un son Confucium 29 avril 61 79. Laissez les gens taxer cela de tout ce qu'ils veulent. Ça m'importe peu. Cela m'importe peu. Je suis certain que c'est Dieu. Amen. Et je chevauche dessus. Ça fait maintenant 31 ans que je chevauche dessus. Et la chevauchée devient plus douce tout le temps. Parce que je m'approche de la porte. Amen. Je chevauche toujours dessus. Quand la mort frappera mon corps, je chevaucherai dessus, je continuerai simplement à chevaucher, je suis la résurrection et la vie. Dit Dieu, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je chevauche dessus. Il n'y a rien de confus là-dessus. Je chevauche dessus. Et c'est sa parole. Et je la crois de tout mon cœur. Croyez-vous cela de même? Tout le reste est incertain. Mais il y a un son certain, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Inclinons la tête maintenant même. Un son Confucium 29 avril 61 78 c'est un son certain. C'est le son de Dieu. C'est sa voix, les cieux et la terre passeront. Mais ma parole n'y passera point. Et je chevauche dessus ce soir. Il a promis ces choses pour les derniers jours. Et je crois que cela est ici. Un son Confucium 29 avril 61 67 Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un chrétien de race pure. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de son confus à ce sujet. Il suffit de regarder toutes les promesses pour le croyant qui a entendu le son et qui a reconnu ce son clair, et devient ce son clair manifesté dans sa vie. Jésus a dit dans Marc 16.16 celui qui croira, piota sigma to epsilon, upsilon sigma alpha sigma, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'y croira pas, delta piota sigma tau eta sigma alpha sigma, sera condamné. Il n'y a pas d'incertitude à ce propos. Il l'a dit dans Jean 3.15, afin que quiconque croit, piota sigma tau epsilon, upsilon omega nu, en lui n'y périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a aucune incertitude à ce propos. Dans Jean 3.16 nous lisons, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, piriota sigma to epsilon, upsilon omega nu, en lui n'y périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a aucune incertitude à ce propos et regardez ce que cela produit, la vie éternelle. Dans Jean 3.18 on nous a promis celui qui croit, piriota sigma to epsilon, upsilon omega nu, en lui n'ester point jugé. Mais celui qui n'y croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Aucune incertitude à ce propos. Et dans Jean 3.36 nous voyons une autre promesse, celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, au fils a, fait écho de, la vie éternelle. Celui qui n'est aimé croit pas au fils n'est aimé verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il n'y a aucune incertitude à ce propos. Qu'en est-il de Jean 6.35 Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, n'aura jamais soif. Il n'y a aucune incertitude à ce propos. Et encore dans Jean 6.47 Jésus nous a promis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en moi a, fait écho de, la vie éternelle. Aucune incertitude à ce propos. Et qu'en est-il de Jean 7.38 celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Aucune incertitude à ce propos. Et qu'en est-il de Jean 11.25 Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en moi vivra, quand même il serait mort. C'est-à-dire la promesse de la résurrection. Et il n'y a aucune incertitude à propos de cette promesse. Et de comprendre qui est-il le Père? Dans Jean 12.44. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en moi croit. Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Aucune incertitude. Et qu'en est-il de la promesse de Jésus à notre égard? Dans Jean 12.46 je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en moi n'est mais demeure pas dans les ténèbres. Aucune incertitude. Alors, qu'en est-il de Jean 14.12 où Jésus a promis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en veux au Père. Si vous n'êtes pas sûr de cela alors pour quelle autre promesse, dites-vous que Dieu a menti? Si vous en êtes certain, alors votre vie produira les mêmes œuvres que la vie de Jésus, le Fils premier-né. Car en tant que Fils vous avez aussi le même esprit et donc la même nature que le Fils premier-né et vous êtes alors semblable à son image. Et qu'en est-il de la promesse que nos péchés seront remis? Ce qui n'est mis peut venir que lorsque nous recevons une nouvelle nature, en recevant la nature même de Christ. Actes 10.43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit, tous ceux qui croient, nu pi iota sigma tau epsilon, upsilon omicron nu tau alpha, en lui reçoit par son nom la rémission des péchés. Aucune incertitude ici. Romains 9.33 Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en lui n'est mis sera point confus. Aucune incertitude ici. Et Romains 10.11 Selon ce que dit l'Écriture, 11 quiconque croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en lui, n'est mis sera point confus. Aucune incertitude à propos de cette promesse. Hippia 2.6 Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, en elle n'est mis sera point confus. Et il n'y a aucune incertitude à propos de cette promesse non plus. Et Jean 5.1 Quiconque croit, pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Et c'est aussi certain, que celui qui a dit cela Jean était Dieu lui-même. Et Jean 5.5 Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit. Pi iota sigma tau epsilon, upsilon oméga nu, que Jésus est le Fils de Dieu? Et cette promesse produit la certitude que nous vaincrons. Jean 5.10 Celui qui croit, piota sigma to epsilon, upsilon omega nu, au Fils de Dieu a fait écho de ce témoignage en lui-même. Celui qui n'y croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'y croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il n'y a aucune incertitude à ce propos non plus. Nous faisons écho car s'estère le même esprit, la même vie en nous qui a vécu en lui. S'estère aussi certain qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qui estère notre vie. Remarquez dans ces 19 versets de la Bible. Nous voyons que chaque verset a une ou plusieurs promesses pour le croyant. Chaque promesse estère certaine et produira une foi certaine. Et chacune de ces promesses produit en nous exactement ce qu'elle a dit. Alors pour quelques-uns, de réduire la traduction de quiconque à il faisant de la promesse un singulier n'est mis traitant qu'avec une seule personne, met de côté toutes les promesses de tout celui qui croit et les rend toutes exclusives à un seul. Et s'estère à son confus, mes frères et sœurs, restez loin des sons confus, qui produisent une foi incertaine, car s'estère lors nous avons besoin de la foi de l'enlèvement. C'est, grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2020. Veuillez adresser toute correspondance, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à, briancocourec@yahoo.com.